Genève. Côté. Nature.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Cité, Genève côté nature. Je m'appelle Virginia et je suis accompagnée de ma sœur Émilie pour vous présenter cette émission. Bonjour! Cette émission suit la philosophie de l'association Nariès que nous avons créée, ma sœur et moi, en 2012. C'est-à-dire qu'elle se veut un moteur pour vous, chers auditeurs, si vous désirez en apprendre davantage sur notre planète, si vous voulez vivre plus en harmonie avec l'environnement, bref, si le sort de notre nature vous tient à cœur. Pour ce faire, nous vous présentons plusieurs volets dans cette émission et aujourd'hui c'est dans un volet vadrouille que nous allons passer les prochaines 20 minutes. Et c'est à Tonnet que nous nous retrouvons, à côté du parking P+R de Moilsula. Pourquoi est-ce que c'est un endroit intéressant pour commencer une vadrouille? Eh bien parce que nous sommes juste à côté du Foron, petite rivière bien connue dans la commune. Le Foron, on en a déjà parlé dans l'émission du 12 octobre 2021, quand nous avions fait une vadrouille le long de la voie verte. Comme on vous l'avait raconté, le Foron est le nom que l'on donne aux sources profondes en Haute-Savoie, et ce n'est donc pas le même Foron ici ou à la Roche-sur-Foron par exemple. On en dénombre pas moins de 7 dans le département de Haute-Savoie. Le Foron a, pendant longtemps, menacé d'inonder les villages de ses berges. Il y a donc eu plusieurs vagues de renaturation que le service du lac de la renaturation des cours d'eau et de la pêche de Genève a entreprise en collaboration avec le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents, côté France. Lors de la dernière phase de renaturation du cours d'eau transfrontalier, les travaux ont même permis l'installation d'une station à Cornières qui prendra différentes mesures pour améliorer la connaissance du Foron. Quand elle sera complètement opérationnelle, elle remplacera ainsi la station d'Ambilly, qui présente des problèmes dus à la végétation riveraine notamment. Alors pourquoi est-il si important de renaturer les cours d'eau? C'est vrai que c'est une habitude que le canton de Genève, entre autres, a prise depuis quelques dizaines d'années. Mais pour quelle raison? Eh bien, il faut savoir que jusqu'aux années 90, les cours d'eau ont été mis à mal par l'urbanisation, car leur importance, que dis-je, leur nécessité, n'était peut-être pas appréciée à leur juste valeur. Et oui, un cours d'eau, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça a des avantages capitaux pour les environs. Par exemple, ils permettent de maîtriser les inondations et de gérer les crues. Ils offrent des milieux variés qui sont profitables à de nombreuses espèces, pour autant que la qualité de l'eau soit bonne, évidemment. Il est donc important de faire attention à tout ce qui est déversé dans l'eau, produits chimiques, fosses septiques, etc. Les cours d'eau accueillent aussi le public grâce à des sentiers riverains qui doivent être entretenus pour mettre en valeur l'attrait paysager de ces milieux. Etc, etc, etc. Il y a vraiment de nombreux exemples quant à l'importance d'avoir des cours d'eau naturels à proximité. Naturels et donc non canalisés. Parce que s'ils sont canalisés, eh bien, leurs bienfaits en sont réduits parce qu'ils ne remplissent plus les critères dont on vient de parler. Avant de continuer sur le Foron et les rivières, on va juste parler du petit oiseau qui chante au-dessus de notre tête, qu'on entend vraiment très bien. Alors c'est toujours drôle, en début de saison, on a l'oreille qui est un petit peu troublée, on va dire, par les mois de silence, même si en l'occurrence cet oiseau-là, on l'entend quand même en hiver un petit peu. C'est le rouge-gorge. Il a un son qu'on décrit comme de l'eau dans une rivière qui coulerait sur des cailloux. Ça fait un peu tututu, tututu, tututu. Alors le rouge-gorge, évidemment, on le connaît très très bien parce qu'il est facilement reconnaissable avec sa gorge qui est orange. C'est un petit passereau. À l'époque, il était regroupé avec les merles dans une même famille, mais on l'a sorti peu après. Une des caractéristiques des rouges-gorges, c'est qu'ils s'apparient, mâles et femelles, dès décembre. Donc ils passent la plus grande partie de l'hiver déjà en couple, sachant que c'est la femelle qui rejoint le mâle sur son territoire. Et quand la femelle pond une nouvelle couvée, parce qu'elle peut en avoir plusieurs, c'est le mâle qui se charge de continuer à nourrir la précédente jusqu'à ce que les oisillons soient indépendants. Pour en revenir à notre Foron, vous savez que la première mention de son nom date de 1602. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1602 à Genève? Je vous le demande, tout le monde peut répondre à cette question, je crois. 1602 est bien sûr l'année de l'escalade. Eh bien, quand les troupes du duc de Savoie ont marché sur Genève, ils ont fait une halte près d'un petit pont sur le Foron, qui sera ensuite renommé pont de l'escalade. C'est un pont qui se situe sur la commune de Gaillard, à proximité de la douane de Fossard. Plus tard, le foron sera aussi utilisé pour le transport du sel. Et d'ailleurs, le roi de Sardaigne fera construire plusieurs nouveaux ponts au-dessus du foron vers la fin du XVIIIe siècle. L'un à Moelle-Sulla et l'autre à Ambilly. Et pourquoi est-ce que ce sont les Français qui se permettent de faire des travaux sur le foron? Eh bien parce que c'est en réalité une rivière française. Elle marque en effet la frontière entre la Suisse et la France, mais la délimitation est bel et bien sur la berge suisse et non au milieu du cours d'eau, comme c'est normalement le cas. C'est lors du traité de Turin, en 1816, que le roi de Sardaigne s'est vu attribuer le foron dans sa totalité. Le foron, comme toute rivière, permet la présence d'un nombre extrêmement varié d'espèces animales et végétales. Donc là, on a entendu le rouge-gorge, on peut aussi entendre un pic qui est en train de tambouriner, un pic épêche. Donc c'est ce petit oiseau noir et blanc avec quelques petites parties de rouge, les mâles en ont plus que les femelles, qui tambourine grâce à son bec sur les troncs pour essayer d'attraper des petits invertébrés et qui a passablement d'adaptation dans son anatomie pour réaliser une telle prouesse, c'est-à-dire que sa langue entoure le cerveau au repos pour faire comme une espèce d'airbag pour le prévenir des chocs pendant le tambourinage. Et puis après, il l'envoie à l'intérieur du trou qu'il vient de former pour attraper des fourmis, des termites, des petits insectes. Et puis après, quand elle se rétracte, elle revient entourer le cerveau pour le protéger. Donc c'est assez incroyable. Et il y a aussi d'autres adaptations, comme les plumes de sa queue, qui sont beaucoup plus solides que les autres oiseaux. Comme ça, il peut s'appuyer sur sa queue pour maintenir cette position verticale pendant qu'il tambourine. Donc voilà, donc on a le rouge-gorge, on a le pic, on a aussi bien sûr les merles, d'autres petits passereaux comme les mésanges, les moineaux, etc. Mais on a aussi un animal qui adore les rivières et qui est un mammifère, c'est un rongeur, le plus gros rongeur d'Europe. Je pense que vous savez de qui je veux parler, c'est le castor. Eh bien, le castor est revenu il y a quelque temps dans le foron et on peut le voir juste en dessous de nous, donc au niveau de la barrière blanche du début du chemin qui mène au P+R. On voit un arbre qui est tombé en travers du foron et à sa base, on peut voir des traces de dents très caractéristiques et des copeaux de bois tout autour, extrêmement frais. Je pense que ça ne date pas d'il y a très longtemps.
Oh, regarde d'ailleurs, plus loin, donc là où l'arbre est tombé, quand il atteint la deuxième rive, on voit aussi qu'on a toute l'écorce qui a été enlevée à coups de dents, sur toute la longueur du tronc en fait.
C'est assez impressionnant, on voit que le castor est extrêmement actif par ici.
À savoir, le castor s'appelle un castor bièvre. Alors, le nom de bièvre a donné le nom à plusieurs localités ou rivières en France. Et d'ailleurs, pas très loin de chez nous, on a Étrembière, dont le nom viendrait de Entre-Bièvre. Donc la présence du rongeur sur ce secteur n'est vraiment pas récente. On la connaît depuis très longtemps. Alors évidemment, on pense souvent que le castor est nuisible parce qu'il détruit des arbres, il fait tomber des arbres. Mais en fait, pas du tout, parce que le fait qu'il fasse tomber certains arbres permet de régénérer les bords des cours d'eau. Et cette régénération permet d'avoir des jeunes arbres qui repoussent et dont les racines vont, comme on le parle souvent, permettre de maintenir la berge et d'éviter l'érosion trop forte qui est présente dans certains cours d'eau et qui est due au mouvement de l'eau. Alors en marchant un peu le long du cours d'eau, on peut voir que l'entretien de cette zone est assez bien fait parce qu'on voit que des arbres ont été élagués, mais les branches n'ont pas été enlevées. Elles ont été mises au pied des arbres, ce qui permet d'avoir des gros troncs, des plus petites branches et ce qui permet d'avoir des refuges pour d'autres animaux. On en parle aussi fréquemment. Donc les animaux qui ont besoin de ce type de refuge, ce sont par exemple les reptiles, les lézards, les serpents, qui vont avoir besoin de se cacher quand ils ne sont pas actifs et de se mettre bien en vue sur les hauteurs d'un tas de bois pour profiter des premiers rayons du soleil, puisque ce sont des animaux ectothermes ou poéchylothermes qui ont besoin de l'énergie du soleil pour être actifs, pour réchauffer leur sang. On a aussi d'autres animaux qui profitent de ces refuges. On a évidemment tout ce qui est micro-mammifères, tous les petits rongeurs, les rats, les souris, les musaraignes.
Et si vous allez en forêt en fin de journée et que vous passez à côté d'un grand tas de bois et de branches, n'hésitez pas à regarder bien autour ou à même vous arrêter un instant pour attendre, parce que c'est souvent le refuge de fouines.
Les fouines vivent dans ces tas, tout comme les renards qui construisent leur terrier en dessous. Et si vous restez calme, un petit peu à l'affût pendant quelques temps, vous avez peut-être la chance de voir quelqu'un. Je pense que tout le monde a reconnu le cri qu'on vient d'entendre au-dessus de nos têtes. Ce sont des corneilles, ces oiseaux noirs bien connus en ville, souvent mal aimés parce que, bah oui, ils font du bruit. Oui, ça c'est sûr, hein, une corneille, ça fait du bruit. Mais à côté de ça, à savoir qu'une corneille, et d'une manière générale, tous les corvidés, sont des animaux extrêmement intelligents. Il y a de nombreuses expériences ou de nombreuses analyses qui ont été faites concernant leur utilisation d'outils. Il semblerait même que certains corbeaux sont capables d'anticiper la taille d'un outil. Par exemple, s'ils veulent aller chercher de la nourriture dans un trou, ils vont faire un premier essai et ils vont se rendre compte si leur bâton n'est pas assez grand et ils vont directement aller chercher ou se fabriquer en coupant avec leur bec un bâton plus grand pour atteindre leur but. Sur les réseaux sociaux, vous avez certainement pu voir ces derniers temps des vidéos qui montrent des corneilles qui aident au nettoyage des parcs, des villes, etc. Parce que, comme Émilie vient de le dire, ce sont des animaux extrêmement intelligents qui sont capables d'apprendre. Et certaines personnes ont créé des espèces de machines qui donnent de la nourriture aux corneilles si elles viennent déposer une capsule de bière ou si elles viennent déposer des mégots de cigarettes. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il faut être réellement heureux de ça, parce que est-ce que c'est vraiment aux corneilles de nettoyer les déchets des humains? Je ne sais pas, d'autant plus que si elles ont des mégots de cigarettes dans leur bec, est-ce que la nicotine arrive à passer dans leur système? Je ne sais pas, mais dans un premier temps, c'est quand même assez amusant de voir des corneilles venir nettoyer les parcs, et en récompense, elles peuvent avoir quelques graines. Nous allons faire ici une courte pause musicale. Alors aujourd'hui, nous allons écouter les Beach Boys avec leur chanson « Don't go near the water ». C'est une chanson qui a été écrite en 1971, dans laquelle ils parlaient déjà de tous les produits qui sont déversés dans les eaux et que du savon et du dentifrice vont faire de nos océans des bains à bulles.
Don't go near the water. Don't you think it's sad? What's happened to the water? Our water's going bad. Oceans, rivers, lakes, and streams have all been touched by man.
Cité Genève.
C'était les Beach Boys avec leur chanson « Don't go near the water ». Vous êtes de retour sur Radio Cité Genève dans l'émission de l'association NARIES Genève Côté Nature. Aujourd'hui, nous sommes dans un côté vadrouille et nous sommes partis du P+R de Moelle-Sula pour nous promener le long du Foron. Alors, on a déjà parlé en première partie que le Foron est une des rivières renaturées qu'on a beaucoup sur le canton de Genève, mais c'est une rivière qui appartient au côté français. Parce que contrairement aux nombreux cours d'eau qu'on a qui sont frontaliers où la frontière est située au milieu du cours d'eau, dans le cas du Foron, il a été décidé pour le roi de Sardaigne que la frontière serait du côté suisse, comme ça tout le cours d'eau est du côté français. Le chemin que nous empruntons qui borde la rivière et qui nous fait passer à côté du Pépluser puis un peu plus loin est bien connu des promeneurs de chiens. Alors évidemment, comme partout, certains promeneurs de chiens ne sont pas aussi, on va dire, respectueux et civilisés que d'autres. Donc faites toujours attention quand vous vous promenez ici, il se peut que vous marchiez dans une crotte, donc faites attention. Et merci d'avance à tous les promeneurs de chiens de ramasser les déjections de vos animaux. Mais en tout cas, pour les canidés, c'est une balade très sympathique. Il y a plusieurs endroits où on est un peu surélevé par rapport à la rivière, mais il y a aussi des endroits où le bord de la rive vient à fleur de l'eau et ils peuvent aller faire trempette dans les galets.
On a déjà parlé de plusieurs espèces d'oiseaux dans la première partie de cette émission, le rouge-gorge, le merle, le piquet-pêche. Là, en arrière-plan, on vient d'entendre un pigeon ramier. Alors, les chants des différents pigeons et colombidés sont assez semblables, mais il y a une différence de rythme. Côté mnémotechnique, on peut voir que la tourterelle est un long nom, alors que le pigeon n'a que deux syllabes. Du coup, à l'inverse, le pigeon aura un chant plus long que la tourterelle. Donc, le pigeon a cinq tons, ta 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 ta, et la tourterelle n'en a que trois. Alors, à côté des oiseaux, on a aussi parlé des castors, mais il y a évidemment beaucoup d'autres animaux qui vivent à proximité des cours d'eau et qui vivent dans les cours d'eau aussi. C'est le cas des crustacés. Alors, si on parle un petit peu des différentes catégories, donc les crustacés, ce sont des animaux avec une carapace externe qui ont 10 pattes, dont certaines sont des fois transformées en pinces. Ce ne sont pas des insectes, hein. Les insectes sont terrestres et ils ont 6 pattes avec une paire d'antennes. Certains peuvent avoir un stade aquatique, bien sûr, mais sinon ils respirent quand même grâce à des trachées, mais ils respirent de l'air ambiant. Chez les crustacés, on parle plutôt de lamelles ou de filaments branchiaux qui leur permettent d'extraire l'oxygène de l'eau.
Parmi les crustacés, en Suisse, on parle surtout des écrevisses. Bah, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment de crabes, on a quelques crevettes qui s'appellent des gamars, qui sont des toutes petites crevettes. Mais là, on va surtout parler des écrevisses. Alors, on a trois espèces d'écrevisses indigènes en Suisse. On a l'écrevisse à pattes rouges, l'écrevisse à pattes blanches et l'écrevisse des torrents. Le problème principal avec les écrevisses, c'est qu'elles sont supplantées par l'écrevisse américaine, qui est, comme quasiment toutes les espèces invasives, légèrement plus grosses, légèrement plus voraces, et donc elle va piquer la place de nos petites écrevisses qui ne vont pas réussir à faire le poids et qui vont peu à peu disparaître au profit de l'écrevisse invasive. Concernant de manière générale les écrevisses, elles sont actives la nuit. Elles vivent de façon assez discrète. Quand on voit un cours d'eau, on ne les voit pas forcément, alors qu'elles peuvent tout à fait être présentes. Parce qu'elles vont se cacher derrière des rochers, dans des anfractuosités du lit de la rivière. Elles vont vraiment être discrètes et elles sortent justement la nuit. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne peuvent pas vivre dans des cours d'eau qui sont trop pauvres en calcaire ou trop riches en calcaire. Alors la raison est assez logique, c'est-à-dire que si elles sont dans une eau trop pauvre, il n'y a pas assez de calcaire à disposition pour construire leur exosquelette. Et dans le second cas, si les eaux sont trop riches en calcaire, eh bien le calcaire forme des dépôts sur leur carapace et ça les empêche de muer. Ou alors ça rend les intervalles entre les mues trop longs. Comme beaucoup d'animaux qui vivent dans des rivières, les écrevisses sont très sensibles aux pesticides et aux insecticides. Donc, par exemple, comme c'est le cas pour les salamandres, si on voit des écrevisses dans une rivière, c'est que l'eau est plutôt de bonne qualité.
C'est ce qu'on appelle des bio-indicateurs. Et les espèces bio-indicatrices sont extrêmement prisées dans les recherches et dans les études de milieu. Parce que, effectivement, comme Émilie vient de le dire, si elles sont présentes, c'est que la qualité du milieu est correcte.
Un dernier détail sur les écrevisses qui est assez marrant, il y a, la nature est bien faite, un mécanisme qui permet de réduire le cannibalisme. Il faut savoir que quand les animaux vont muer, ils vont avoir pendant un petit moment un corps très très mou qui les rend extrêmement vulnérables. Donc c'est vraiment une période où ils doivent faire attention de ne pas être prédatés. Et bien pour les écrevisses, la mue a lieu au même moment pour tous les individus qui ont une même classe d'âge. Et ça fait qu'entre eux, ils ne vont pas être capables de se manger parmi parce qu'ils seront tous en train d'être dans le même stade vulnérable.
Alors, si on parle un petit peu végétation, nous sommes maintenant au début du mois de mars et avec ce mois de mars arrive bientôt le printemps. Alors là, la végétation est encore un peu endormie, il a fait très froid ces derniers temps avec des pics très très bas, malgré quelques pics très très hauts. Donc la nature est gentiment en train de se réveiller de sa torpeur hivernale. Alors on voit évidemment encore les plantes qui ont résisté à l'hiver, comme le lierre, qui est vert toute l'année. C'est pour ça qu'il avait comme symbole la vie éternelle à l'époque de l'Antiquité. On peut voir aussi des conifères qui n'ont pas perdu leurs aiguilles et qui sont à feuilles persistantes, contrairement aux feuillus qui, eux, perdent leurs feuilles. Mais pas tous, hein. On voit aussi, là, juste à côté de nous, du houx. Le houx garde ses feuilles toute l'année et c'est pour ça qu'on peut avoir des jolies guirlandes de houx avec ses petites baies rouges pour les fêtes de Noël. Mais là, juste en contrebas du petit chemin, dans un des méandres du Feron, on peut voir les premières petites touches de couleur rose. Rose un peu fuchsia, c'est un cyclamène d'Europe. Alors, il fait partie des primulacées, donc la même famille que les primevères. Et on appelle souvent cette fleur aussi marron de cochon, en faisant allusion à son tubercule brun. On voit en effet à cette période de l'année que les fleurs sont un peu sorties de nulle part. Elles n'ont pas vraiment de feuilles. On voit une grande tige brune et ce petit point lumineux avec ses pétales un peu roses. C'est une fleur qui est pollinisée par les insectes, hein, comme beaucoup de fleurs, mais pas n'importe lesquelles, parce que ses graines sont en fait dispersées par les fourmis. Ça s'appelle la Myrmécocorie. Myrmeco fait allusion à la fourmi, corie fait allusion au transport, c'est donc le transport par les fourmis. On a déjà parlé des types de transport et de dispersion des graines, notamment dans l'émission de la nature citadine en vieille ville, parce qu'effectivement, certaines plantes sont spécialisées sur les fourmis. Les fourmis vont donc aller chercher des graines, vont manger souvent l'emballage des graines qui est très nutritif, mais les graines en tant que telles, elles ne vont pas pouvoir y accéder et du coup elles vont les relâcher avec les déchets de la fourmilière. Et c'est ce qui va permettre ensuite aux graines de se déplacer et d'aller pousser dans un autre milieu. De manière générale, le cyclamène pourpre, donc celui qu'on a devant nous, est une plante assez rare. Et du coup, il est protégé. On n'a pas le droit de le cueillir.
Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission avec ce côté vadrouille au bord du Feron. On vous rappelle, comme il est d'usage, quelques informations concernant les activités de Nariès. Alors cette semaine, nous sommes à la semaine 11 de notre éco-challenge et le défi de la semaine, c'est de ne pas dépasser 5 minutes pendant vos douches. Alors voilà, il y en a peut-être qui aiment bien profiter du temps sous la douche. C'est vrai que c'est très agréable d'avoir l'eau chaude qui nous coule dessus, mais c'est pas très écolo. Donc, quelles sont les solutions pour arriver à faire 5 minutes de douche, Virginia ?
Alors, surtout, il faut éteindre l'eau pendant que vous vous savonnez, pendant que vous vous lavez les cheveux, pendant que vous vous rasez, si c'est le cas, sous la douche. Ne laissez pas l'eau couler, c'est du gaspillage. Vous vous mouillez, vous éteignez l'eau, vous vous shampouinez, vous rallumez l'eau pour vous rincer, vous la réteignez, vous continuez votre douche, vous la rallumez pour vous rincer à la fin, et c'est comme ça qu'on arrive à économiser de l'eau. Et pour être sûr que ça ne dépasse 5 minutes, vous pouvez chanter dans votre tête une chanson que vous arrêtez de chanter dès que vous éteignez l'eau, et comme ça vous saurez pendant combien de temps vous avez laissé couler l'eau. Dans les rendez-vous concrets, nous avons le vendredi 18 mars, il y aura le marché des 4 saisons à Puplinge. Nariès aura un stand, évidemment, donc vous pourrez venir nous rendre visite et apercevoir quelques extraits de notre boutique écolo. Nous aurons des bougies recyclées, nous aurons des produits zéro déchet comme des cakes vaisselle ou des déodorants solides ou même des shampoings avec différents parfums. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, ça aura lieu de 16h à 19h sur la place du village de Puplinge.
Nous avons aussi une petite douceur que vous pouvez goûter sur le moment avec du caramel au beurre salé à tartiner sur votre pain pour le petit déjeuner.
Autre rendez-vous, ce sera le dimanche 20, ce sera la sortie nature du mois de mars, pendant laquelle nous irons à la rencontre de la faune urbaine des parcs. Nous essaierons de repérer des écureuils, des gros becs casse-noyaux, des piquets-pêches, etc. Ce sera donc le parc Stani à Chêne-Bougerie.
Autre information, c'est que n'oubliez pas, nous sommes bientôt dans les vacances de Pâques et Nariès a une antenne de garde d'animaux. que l'on a appelée option câlin. Donc si vous souhaitez partir en vacances, mais que vous voulez être sûr que vos animaux sont bien traités pendant votre absence, n'hésitez pas à faire appel à nous. Nous avons un formulaire de contact directement sur le site internet, que je vous rappelle aujourd'hui, www.naries.ch. Et nous vous rappelons que cette vadrouille sera bientôt disponible en podcast sur notre site internet, ainsi que sur le site de Radio Cité Genève. Et c'est avec une petite fauvette à tête noire qui est juste devant nous. Donc, petite passereau brun avec la calotte, donc le haut de la tête noire. On l'appelle la commère des jardins et des forêts. C'est donc avec ce joli petit oiseau que nous vous disons au revoir et que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Côté Astuce. Bonne semaine à tous. Au revoir.
Genève. Côté. Nature.